Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci de nous être toujours fidèles. Bienvenue à ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Dans la Haute-Garonne, sur les quelques 1,3 million d'habitants que compte le département, 750 000 vivent dans la métropole toulousaine, soit plus de la moitié, une répartition que l'on retrouve souvent dans l'ensemble de notre pays, avec un poids grandissant des métropoles en termes de population, d'emploi et de services, au détriment des territoires ruraux dont beaucoup se dépeuplent, connaissent des difficultés sur le plan économique et des taux de chômage supérieurs à ceux des grandes agglomérations, une situation et un déséquilibre qui ne vont pas s'en poser de problème, avec le sentiment, théorisé par le démographe Christophe Guihuy dans son livre « La France périphérique », que nous vivons de plus en plus dans une société partagée en deux, entre les habitants des métropoles qui bénéficieraient des bienfaits de la mondialisation et les autres qui en seraient les laissés pour compte. Est-ce une fatalité ou y a-t-il au contraire des raisons d'espérer une synergie bienfaisante entre métropole et campagne? C'est à ce thème que nous allons consacrer ce numéro autour de la question suivante. Que peut faire la métropole toulousaine pour les territoires ruraux? Pour nous guider dans cette réflexion, Métropolez-vous accueille aujourd'hui Jean-Louis Puisségur, président de l'association des maires de Haute-Garonne. Bienvenue à vous aussi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes également vice-président de l'association des maires de France en charge du monde rural et maire de Pointe-Issinard depuis 1988. Vous exerciez précédemment le métier d'agriculteur. Autant dire que vous connaissez très bien les territoires ruraux et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Avant d'en parler avec vous dans quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'association des maires de Haute-Garonne que vous présidez, quelle est sa raison d'être et les buts qu'elle poursuit?
L'association des maires de la Haute-Garonne est semblable à toutes les associations départementales de France et d'Outre-mer. Son rôle est double. D'abord, l'immense majorité des maires, à deux ou trois près, des communes adhèrent à l'association, de même que toutes les communautés de communes. Donc c'est vraiment un bloc avec deux rôles principaux de relation avec l'État. Le premier avec l'État haut-garonnais, au niveau du préfet, où nous siégeons à quelques 100 commissions qui vont de l'habitat aux installations classées, à l'urbanisme, etc. Et puis un rôle au plan national, puisque toutes les associations sont regroupées au plan national, avec un certain nombre d'élus qui font partie du national, et le rôle du national est relativement simple, nous sommes les interlocuteurs privilégiés de l'État, qui nous soumet les projets de loi, etc., sur lesquels nos services travaillent. On est un sous-sénat, quoi, en quelque sorte.
Très bien, eh bien, merci pour toutes ces informations sur l'action de l'association des maires de Haute-Garonne. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans l'immédiat, c'est à l'actualité métropolitaine que vont être consacrées les minutes qui vont suivre grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'informations hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Et dans ce flash, une première information qui concerne les énergies renouvelables. Toulouse Métropole soumet à déclaration d'intention son projet de méthanisation des boues de la station d'épuration de Toulouse-Ginestoux-Garonne.
Oui, la méthanisation, c'est ce processus de transformation d'une partie de la matière organique en biogaz. Elle fait partie des énergies renouvelables appelées biomasse. Le projet situé au sein de la station d'épuration de Toulouse-Ginestoux consiste à utiliser les boues de la station issues de l'épuration des eaux usées en transformant leur matière organique pour contribuer à la transition énergétique.
Et quelles sont les capacités en jeu?
Eh bien, l'usine traite les eaux usées d'une grande partie de la métropole toulousaine. Elle a une capacité de traitement équivalent à 950 000 habitants. Au total, 589 000 habitants sont raccordés à la station d'épuration et elle a fait l'objet de nombreux travaux pour accompagner la croissance démographique de l'agglomération toulousaine. Des travaux qui ont aussi pour objectif d'en faire une station vertueuse en optimisant la filière boue, mais aussi sur le plan énergétique pour qu'elle devienne productrice d'une énergie verte et décarbonée, performante dans sa lutte pour la réduction des odeurs, moins coûteuse en termes d'exploitation. Bien sûr, tout ceci en maintenant des niveaux de performance élevés dans le traitement de l'eau. La livraison de l'usine est prévue fin 2019 pour une mise en service progressive en 2020.
Les relations entre la métropole toulousaine et les territoires périphériques se renforcent. Toulouse Métropole et le pays des Portes de Gascogne ont signé cet été un contrat de réciprocité pour une nouvelle solidarité territoriale.
Et dans les faits, il s'agit d'une volonté d'alliance des deux territoires. Ce contrat de réciprocité vise à dépasser la dualité opposant rural et urbain et à rapprocher les dynamiques territoriales urbaines et rurales. Les deux collectivités s'engagent à travailler de façon concertée et à créer des synergies entre les ressources de leur territoire pour favoriser leur développement.
Concrètement, comment ces rapprochements vont-ils se faire ?
D'abord, dans le développement économique, avec une mise en cohérence des stratégies foncières, le soutien à la création d'entreprises, l'appui aux initiatives innovantes et à la promotion du télétravail. Vient ensuite le soutien à l'agriculture raisonnée en mettant en œuvre un projet alimentaire de territoire et le maintien d'une agriculture de proximité. Puis le développement touristique avec la mise en place et la promotion de parcours touristiques associant les atouts des deux territoires. D'autres domaines seront bien sûr soutenus, le champ culturel ou les plans de mobilité entre les deux territoires, entre autres.
Et puis, dernière information de ce flash, des résultats encourageants pour le plan local pour l'insertion et l'emploi.
Le PLI, c'est aussi son nom, est porté par Toulouse Métropole et cofinancé par le Fonds Social Européen en partenariat avec le Sicoval. Le renouvellement de cette collaboration en faveur de l'insertion et de la solidarité sera proposé au prochain conseil de la Métropole. Une collaboration qui permet au PLI de toucher un plus large public puisqu'il s'étend sur 73 communes au lieu des 37 communes seulement métropolitaines et d'avoir bien sûr une meilleure efficacité. Chaque année, le PLI permet à près de 2500 demandeurs d'emploi d'être accompagnés vers la reprise d'activité à travers une offre de services et une collaboration avec les entreprises du territoire. De septembre 2016 à septembre 2017, 49% des sorties du dispositif aboutissent à un emploi durable, que ce soit CDI, CDD de plus de 6 mois ou contrat d'apprentissage. 60% des embauches ont lieu dans le secteur privé, 23% dans le secteur public et 17% dans le secteur associatif.
Dans ce flash, Jean-Louis Puységur, il doit y avoir des informations qui ont retenu votre attention. Je pense notamment à celle qui concerne la signature du contrat de réciprocité entre Toulouse Métropole et le pays des Portes de Gascogne. Là, il ne s'agit pas vraiment de la Haute-Garonne, mais est-ce que de tels accords existent ou sont en projet entre Toulouse Métropole et les communautés de communes haute-garonnaises ?
Je n'en ai pas connaissance. Par contre, au plan national, il y a des discussions justement pour que, sur le plan législatif, on amène les métropoles à collaborer, je ne sais pas, matériel ou peut-être plus sur le plan financier, au développement des zones rurales. Pour l'instant, rien n'est conclu. C'est au désiratum de chacun des présidents de métropole.
Alors, il a été question aussi du PLI, le plan local d'insertion pour l'emploi. Et donc, il y avait les 37 communes de la métropole qui avant étaient concernées uniquement. Maintenant, ça s'étend à 73 communes en tout, certaines appartenant au monde rural. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Je vais vous dire que le Sicoval est mixte, mais qui s'appuie sur les zones, notamment sur la Bège, qui sont excessivement performantes et dynamiques. Je pense que l'association est une bonne chose. Je pense que ces deux collectivités se parlent, notamment sur le problème des transports, etc. Et mon ami Jacques Coberti, président du Sicoval, je sais qu'il travaille énormément avec la métropole toulousaine.
Donc ce sont des mesures qui vont dans le bon sens, qui devraient être appelées à s'étendre ?
Je ne sais pas si ça peut s'étendre, parce que pour parler d'emploi, il faut parler de création d'emploi et d'offre d'emploi. On ira sur le monde rural, ce n'est pas tout à fait le cas.
On va refermer la parenthèse de l'actualité métropolitaine pour revenir à ce qui est notre sujet du jour, même si nous venons déjà un petit peu d'en parler. Que peut faire la métropole toulousaine pour les territoires ruraux ?
Métropole et vous ?
Métropolez-vous, le focus de la semaine.
Métropolez-vous, la suite avec notre invité du jour, Jean-Louis Puységur, maire de Pointe-Issinard, président de l'association des maires de Haute-Garonne. Si on essaie de dresser une cartographie sommaire des territoires de Haute-Garonne, peut-on dire qu'en dehors de la métropole toulousaine, de l'agglomération toulousaine, le reste du département est constitué essentiellement de territoires ruraux avec de petites villes et des villages, et une économie plutôt tournée vers l'agriculture et l'agroalimentaire, à quelques exceptions près.
À grands traits, vous avez raison, mais si on affine un petit peu, on va dire que la métropole toulousaine attire surtout la production, l'emploi productif. Airbus en est le meilleur exemple. Ensuite, lorsque on aborde un rayon qui va jusqu'à 40-50 km, l'urbanisme bénéficie de cet emploi métropolitain, puisque les gens vont habiter dans ces zones et profitent un petit peu du monde rural en quelque sorte. Alors si elle s'éloigne un petit peu, on va dire que la vallée de la Garonne et l'autoroute, cet axe-là, sur cet axe-là, ça se maintient, voire s'améliore, notamment grâce au numérique. Mais si l'on s'écarte de 10 à 20 km de ce trait, ça devient compliqué puisqu'on tombe en pleine déprise agricole, nous y reviendrons, avec évidemment l'agriculture en termes d'emploi productif qui n'a pas été compensée dans la part de l'emploi productif. Et là, on s'adresse à des villages vraiment en déprise.
Est-ce qu'il y a des zones qui ont des spécificités propres ? Je pense notamment à celles qui sont plus proches de la montagne, avec une économie plutôt tournée vers le tourisme et les loisirs.
On ne peut pas dire que ce soit d'activité exclusive, mais c'est vrai qu'un secteur comme le Luchonnais, par exemple, et un secteur très touristique autour du thermalisme, ça baisse un petit peu, et autour du ski, on a un peu partout des initiatives intéressantes sur le plan du tourisme, notamment le fait de les fédérer. Chaque communauté de communes, chaque secteur avait son office de tourisme. Un tour opérateur, il ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'on lui fournisse plusieurs solutions, de l'hébergement, de la restauration, etc. Donc j'attends beaucoup, moi, de cette fédération, mais on ne peut pas tout miser sur le tourisme, car il y a bien des zones beaucoup plus attractives que la nôtre, mais nous sommes un lieu de passage. Nous l'étions vers Lourdes, ça se calme un petit peu. Il faut dire qu'en Espagne, le Val d'Aran attire énormément, l'Aragon aussi, donc il faut peut-être bénéficier de ce flux qui nous traverse pour les attirer chez nous, et c'est en bonne voie, je crois.
Quels sont les principaux secteurs pourvoyeurs d'emploi aujourd'hui pour les territoires ruraux d'Haute-Garonne ? C'est vraiment l'agriculture, l'agroalimentaire, ou il y en a que j'oublie ?
Je pense qu'on peut s'arrêter à l'agriculture. L'agroalimentaire est en devenir.
Il n'est pas encore développé.
Tout le problème, c'est qu'on ne valorise pas les ressources locales avec des formes d'agriculture différentes. Du côté du Lauragais, même au nord de Toulouse et dans le Muretin, on a surtout beaucoup de céréaliers. L'élevage a pratiquement disparu. Par contre, à partir d'une zone Caser-Martre-Tolosane, on a un mixte, c'est-à-dire des céréaliers et aussi des éleveurs en déprise, notamment les éleveurs laitiers qui disparaissent à la vitesse grand V. Et la petite agriculture traditionnelle d'autrefois, d'après-guerre, a pratiquement totalement disparu, sauf en montagne, où il s'agit surtout de pluriactivité.
Et si on s'intéresse à la population, à l'évolution de la population, est-ce qu'on assiste, comme dans beaucoup d'autres zones rurales en France, à un dépeuplement de ces territoires ?
C'est disparate. Ma commune de Pointe-Izinard est voisine de Saint-Gaudin et pas trop loin de l'axe dont je vous ai parlé, dont nous progressons de 5% à chaque recensement. Pourquoi ? Parce que la ville-centre Saint-Gaudin est encore attirante et fournit un petit peu d'emploi, mais on assiste au phénomène suivant. Énormément d'habitants, et plus on va vers Caser, Martre-Tolosane, plus on remonte et plus c'est le cas, se dirigent tous les matins vers la métropole toulousaine et en rentrent. D'où je vais parler par la négative. Si on n'arrive pas à amener de l'emploi productif au monde rural, je pense qu'on reviendra sur le sujet, c'est le plus important, il faut au moins améliorer les transports en termes de rapidité et de fiabilité vers la métropole toulousaine, pour que ces gens-là ne consomment pas 3 heures de leur journée à rejoindre leur travail. Il y a une piste à regarder, il faudrait gagner du temps. Bon, si on compare par rapport aux Parisiens, la comparaison n'est pas évidente, mais il faudrait à ce sujet-là, pour gagner du temps, la moitié, si possible, avec une rapidité des transports, puisque la voiture est condamnée. Si on va à Toulouse au travail le matin, depuis Saint-Gaudens ou depuis Caser, il faut savoir qu'on va passer une heure dans les bouchons.
Vous parliez de situations disparates suivant les zones du département. Est-ce qu'il y a vraiment des zones qui sont sinistrées en termes de baisse de l'emploi et de perte de population ?
Écoutez, je pense que oui, mais la dernière génération s'en va. Je vais aborder ce sujet. Les jeunes qui veulent rester, et ils ont bien raison, dans le monde rural, n'ont malheureusement qu'une solution. S'ils ont un certain potentiel intellectuel, ils prennent des sous-emplois par rapport à l'emploi qu'ils n'auraient pas offert. Et bon, ils s'adaptent, puisqu'ils sont heureux dans leur...
Ce sont des choix de vie, là, vraiment. Hein.
Ils sont heureux dans leur village. Le plus souvent, ils peuvent être pluriactifs agricoles, ou s'ils ont la chance que l'épouse travaille... je ne dis pas que ça se passe de façon idéale, mais ça se passe plutôt bien, sauf qu'ils n'ont pas un emploi à hauteur de leur capacité.
De leur potentiel.
Le problème qui se passe, je vais aborder rapidement le problème des CAE, c'est que justement, ils prennent ces emplois qui seraient destinés à des gens qui sont démunis de formation ou qui seraient plus adaptés, je vais le dire comme ça, à ces postes-là. Chauffeur d'engin, ripper sur les ordures ménagères, chauffeur de portage de repas à domicile. Donc, les gens qui seraient destinés à ces emplois-là se trouvent sans emploi. Leur seule destination était les CAE. Et malheureusement, leur seul avenir professionnel. Puisque lorsqu'ils avaient fait un CAE, ils faisaient un an de chômage parce qu'ils y avaient droit. Et il fallait qu'ils fassent un an de chômage pour avoir un nouveau contrat aidé, qu'ils faisaient avec la difficulté à en trouver, puisqu'on a des commissions d'embauche sur un poste où on se trouve avec 20 demandeurs de contrat emploi aidé. Donc ça, c'est un véritable souci qui est la démonstration même que nous manquons dans le monde rural d'emplois productifs moyens et haut de gamme, où honorer les jeunes qui seraient là, mais qu'il faudrait former, dont la formation précède l'arrivée de l'entreprise, c'est anticipé et c'est vraiment un problème complexe.
Alors vous avez déjà abordé le sujet, là on va essayer de lister les principaux problèmes, les manques rencontrés par ces territoires et leurs habitants. Alors le principal a priori c'est quand même l'emploi, la disparition des commerces et des services, notamment des services de proximité, et puis donc le vieillissement de la population, la pénurie de médecins. aussi, parce que ça, on en entend de plus en plus parler, donc peut-être le manque aussi de services d'aide à la personne. C'est tout ça ou j'en oublie ?
Mais tout va de pair, et si l'emploi était là, on aurait des communes qui seraient régénérées au fur et à mesure, et on aurait des services de proximité qui pourraient vivre, la poste pourrait gagner davantage sa vie, l'épicerie ou le bar du coin également, la pharmacie également, les toubis trouveraient leur compte. Il me semble qu'à partir de l'emploi productif et le fait que les jeunes restent en régénération, les communes, par contre, elles ne se régénèrent pas s'il n'y a que des personnes âgées dont le devenir, finalement, pour chacun, y compris moi, est de disparaître. Donc, il faut absolument régler ce problème-là. Et comme je vous disais, si on ne le règle pas, il faut trouver les palliatifs. Mais le régler est effectivement compliqué. On abordera le problème agricole après, mais et le fait que cette déprise agricole est réelle, est-ce qu'elle a provoqué ?
Alors, on en vient maintenant aux solutions. Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire en tant qu'élu et avec l'association des maires de Haute-Garonne pour aider ces territoires ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées en concertation avec le conseil départemental, la région, l'État et éventuellement donc la métropole toulousaine ?
On parlait ou on parlera de ce que peut faire la métropole. Le conseil départemental fait avec, puisqu'il effectue une péréquation de la ressource fiscale toulousaine vers les territoires ruraux. Si la métropole n'existait pas, ils ne pourraient pas le faire. Et beaucoup des départements qui nous entourent, sinon la plupart, les Hautes-Pyrénées, le Gers, l'Ariège, sont totalement démunis et n'ont pas une situation financière comparable à nos communes. Bon, ensuite, le conseil départemental effectue des aides graduelles vers nos communes. L'exemple pour la voirie, si importante, l'entretien de la voirie. Les communes de moins de 400 habitants ont 70% d'aide. Les communes qui sont au-delà ont autour de 45%. Et les communes qui sont encore au-delà, qui sont encore mieux dotées, normalement mieux dotées puisque plus nombreuses, ont autour du taux d'édilité. Dans la péréquation se fait. Le conseil régional s'occupe aussi de ce problème. Carole Delga, notamment, y est très sensible puisque c'est une habitante du Comminges. Mais il y a tellement à faire. Et ça ne suffira pas. Il faudra bien que l'État, un jour, se retrousse les manches sur ce phénomène. Bon, j'allais dire, pour faire simple, on n'en est plus à l'incantation. On n'en est plus à dire attention, ça ne va plus du tout.
Il faut être dans l'action maintenant, plus dans l'incantation.
Oui, on n'est plus dans l'incantation.
Est-ce que l'État peut pas jouer son rôle aussi, enfin l'État et travailler ses services, pour développer, vous parliez de la difficulté pour les transports, les déplacements, les voies d'accès. Il y aurait beaucoup à faire sans doute sur nos territoires.
Tout à fait, je parle surtout des voies d'accès. Bon, il n'y a qu'à rejoindre Toulouse pour le constater. Il y a aussi le problème des voies ferrées. La LGV est plus que nécessaire. Alors, je demandais récemment à monsieur le préfet, avec lequel nous parlons beaucoup, si la LGV était un levier économique. Et il m'a répondu de façon très adroite. Je ne dirais pas qu'il faut l'avoir, je dirais qu'il faut l'avoir si les autres l'ont. Parce qu'effectivement, si Bordeaux a la LGV, si Marseille a la LGV, si Montpellier a la LGV, les chefs d'entreprise iront plutôt vers ces zones plutôt que vers les nôtres. Non, il a tout à fait raison. Non, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que la LGV est importante, ça veut dire aussi qu'elle est nécessaire, d'autant qu'elle n'y est pas.
On a parlé des difficultés, des problèmes rencontrés donc par ces territoires, mais il y a aussi quand même des atouts sur ces territoires. Quels sont-ils ? C'est la qualité de vie, c'est une campagne belle et encore préservée, c'est un potentiel touristique, patrimonial éventuellement ?
La qualité de vie, incontestablement, puisque j'en bénéficie, apercevoir les montagnes et être proche tous les matins est bien agréable. Ça, c'est un fait. Il n'empêche que l'autre réalité, c'est que nous n'allons pas chercher de la marge sur les produits que nous fabriquons. Il y en a un qui se fabrique tout seul, c'est la forêt. On a énormément de mal à valoriser le bois d'œuvre. Pourquoi ? Parce que la concurrence est là, il y a des bois d'œuvre qui viennent des pays de l'Est, etc. Et nous apercevons qu'il faut franchir le pas suivant, c'est-à-dire aller à la fabrication. Et quelques entreprises se sont montées, c'est un bon exemple, de fabrication de meubles à partir du bois de hêtre, par exemple. C'est de très beaux meubles, en plus d'une belle couleur, et qui sont un bel exemple. Au-delà de la forêt, il y a toute la production agricole. Alors la production agricole, certains agriculteurs arrivent à valoriser en vente directe. On ne peut pas le généraliser. Par contre, ceux qui le font bien, ce sont des produits de qualité, qui supposent un congélateur. Qui dit congélateur dit que ce n'est pas tout à fait la viande que vous achetez tous les matins chez le boucher, que vous choisissez à la vitrine, etc. C'est un peu différent. Et un de mes amis qui, d'ailleurs, est producteur et fait ce genre de job, me dit « on ne remplacera jamais le boucher ». Enfin, moi, je m'occupe pas de ces achats à la maison, mais c'est une réalité. Donc, on ne valorise pas, et il faudrait valoriser sur un plan plus général. J'en venais à la métropole tout à l'heure, il y a une chose qui s'organise bien et qui commence à être un fait de société, c'est le bio. Alors ça, nos agriculteurs savent faire, puisqu'on n'est pas dans les grandes plaines céréalières de la Beauce, on est dans des superficies relativement moyennes. Nos éleveurs sont des éleveurs moyens, etc. On n'a pas des élevages de 1000 vaches ici, et c'est pas souhaitable, et c'est pas souhaitable non plus. Donc on a beaucoup d'éleveurs qui spécialisent dans le bio, qui s'organisent sur le plan commercial, parce qu'il faut pouvoir fournir, il faut pouvoir fournir régulièrement, il faut pouvoir fournir des masses suffisantes. On passe à l'alimentation des cantines scolaires, et je pense que l'accès à la métropole toulousaine est évident pour eux. Je pense que c'est le palier supérieur et qui suppose une organisation supérieure encore, mais j'y crois énormément. Par contre, on ne coupe pas, parallèlement à ça, à essayer de mettre en place des entreprises de valorisation agroalimentaire industrielle à partir de produits de qualité, pour aller vers des masses, un peu comme on fait avec l'eau embouteillée par exemple, qui est un produit de qualité mais qu'on dirige vers les masses. Ça, ce serait nécessaire, mais ça suppose toujours des initiatives privées, stimulées par les collectivités de tous ordres, telles que celles que vous avez citées tout à l'heure, avec des avantages. Mais le décideur, c'est bien l'entreprise privée. Et là, ça s'avère compliqué pour des problèmes de transport évidents. Quand on est à 100 km de la métropole, à 100 km de l'avion et à autant du TGV, c'est autant de temps perdu et beaucoup trop de temps perdu pour les chefs d'entreprise qui n'en disposent pas beaucoup.
Sachant cela, parce que j'allais y venir justement, là, le rôle que peut jouer la métropole pour aider ces territoires et en tout cas leur fournir des débouchés, donc un rôle de locomotive, mais aussi on parlait du secteur agroalimentaire qui est encore en devenir, qui n'est pas assez développé, développer les fameux circuits courts pour l'alimentaire entre les territoires ruraux et la métropole. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées là-dessus?
Bon, des réflexions et des actions. Je pense qu'il y a des écoles toulousaines qui doivent être livrées en bio. Il y a sûrement des choses qui sont faites et qui peuvent proliférer, j'allais dire, la balle est dans notre camp. Il faut que notre organisation soit capable de fournir sur la masse avec des produits de même qualité, c'est-à-dire que d'autres producteurs le rejoignent. Mais ces producteurs ne sont pas nombreux. Je vais aborder le problème agricole. Après-guerre, dans ma commune, il y avait 70 exploitations agricoles. Elles sont faciles à compter, c'est les maisons les plus anciennes. Il y a aujourd'hui 5 exploitations, dont 2 en devenir. Mais c'est par là qu'on comprend la déprise agricole. 70 exploitations, il y avait souvent 4 actifs par exploitation, les grands-parents et les parents. Et quand les grands-parents touchaient la retraite, c'était que du bonheur parce que la ressource familiale augmentait notablement. Il en fallait peu. Alors 70 exploitations, on va dire 50. Avec 4 actifs, on va dire 3 moyennes. Mais on avait 150 actifs dans ma commune et on avait 150 actifs dans les communes en moyenne. Aujourd'hui, on en a 5, demain, on en a 2. Bon, le ratio est vite fait, c'est un peu plus de 140. 140 multiplié par l'ensemble des communes rurales de France, on a le chômage aujourd'hui.
Quelle relation entretiennent les élus de la Haute-Garonne avec ceux de Toulouse Métropole et les services métropolitains? Est-ce qu'il y a des réunions régulières, des groupes de travail communs? Est-ce qu'il y a des projets en cours, vraiment un travail de rapproché entre toutes ces parties?
Alors, nous n'avons pas de travail organisé, nous travaillons au coup par coup. Et je pense que lorsqu'il s'agit de coup par coup, la métropole répond bien. Il y a quelques années, nous avons subi des inondations importantes dans le sud du département. Et la métropole, il n'a pas fallu beaucoup appeler les responsables métropolitains à l'époque pour qu'ils amènent du matériel de façon conséquente et aussi de lui-même. Dans ça, au coup par coup, je suis persuadé que la métropole sait faire et pourra faire. Il y a un autre sujet sur lequel la métropole peut et va intervenir, c'est la Garonne. Il est évident que le sujet est un vrai sujet. Toulouse est pratiquement la plus grande ville en aval de la Garonne. Bon, il y a quelques autres, mais on peut dire que Toulouse est directement sur le flux amont. Et mieux on améliorera le flux amont, et mieux Toulouse s'en portera. Donc je sais que Toulouse a l'intention de s'investir aux côtés de l'agence de l'eau et des collectivités qui sont plus au sud pour gérer ce problème, notamment sur la qualité de l'eau, sur les embâcles. Il y a, je pense, beaucoup à faire au bénéfice de la métropole, et la métropole le sait. Donc, elle saura nous aider sur ce plan.
Oui, d'autant plus qu'on annonce des niveaux d'étiage de la Garonne de plus en plus bas dans les années qui viennent. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes pour les agriculteurs, pour l'irrigation notamment?
Il y a une dualité là-dedans qui est particulière dans notre département. C'est l'eau potable, c'est l'eau nécessaire à l'irrigation des exploitations avec une mutation qu'effectuent les agriculteurs. La même mutation qu'ils font sur les engrais, sur les produits phytosanitaires, ils la font sur l'eau. L'eau est mesurée et puis golfèche. Donc, il faut gérer cette affaire-là. J'avoue que ce n'est pas simple et que si les débits diminuent comme ils le font jusqu'à maintenant, nous avons absolument besoin de créer de la ressource et c'est plus que nécessaire et difficile parce que les Pyrénées espagnoles font 100 km de long ou même 150, pratiquement jusqu'à Huesca, les Pyrénées s'étendent. Par contre, sur notre versant, elles font 10 à 20 km.
Oui, c'est
compliqué pour faire des retenues. Sur le plan environnemental, tout le monde ne pousse pas dans le même sens non plus.
Certainement pas.
Mais les communes savent faire. Par exemple, j'ai 3 communes du côté de l'Ariège, au sud toulousain, qui viennent de s'allier pour faire un bassin d'expansion. Ils ont acheté plusieurs hectares de foncier ensemble, parce que c'est ça aussi, parce qu'il y a des crues. Le bassin d'expansion est la meilleure solution, c'est de stocker l'eau. Ils ont réussi à s'allier pour acheter le foncier pour faire un bassin c'est remarquable, ce genre d'attitude. Ça veut dire que les collectivités, la solidarité, savent faire.
Bon, eh bien, on terminera là-dessus, sur la solidarité entre les communes, les communautés de communes et la métropole toulousaine. Il me reste à vous remercier, Jean-Louis Puységur, d'avoir participé à cette émission et de nous avoir donné cet éclairage sur la situation des territoires ruraux et les relations qu'ils développent ou pourraient développer à l'avenir avec la métropole toulousaine. Au-delà du cas des territoires de Haute-Garonne qui ont leurs particularités propres, on sait que de plus en plus de disparités sont constatées entre les grandes métropoles et les campagnes françaises, et ce dans bien des domaines. Un tableau qui met en évidence le risque d'une certaine fragmentation du pays, déjà partiellement existante dans les faits, ce qui pourrait mettre en péril à terme l'unité nationale. Faut-il cependant opposer métropole et territoires ruraux ? En Haute-Garonne, la bonne santé économique de la métropole toulousaine doit profiter aussi à l'ensemble du département et donc à tous ses habitants. Nous espérons que cette émission aura contribué à le montrer. Des actions, des projets vont dans ce sens et il faudra qu'il y en ait encore d'autres à l'avenir. Si vous voulez en savoir plus sur l'association des maires d'Haute-Garonne, je vous invite à consulter son site internet www.amf31.asso.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.